Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. La semaine dernière, nous parlions en long, en large, en travers des tarifs, les fameux droits de douane dont Donald Trump parle beaucoup. On
Un peu moins en ce
expliquait un
moment.
petit peu moins en ce moment, effectivement. On a expliqué un peu quel était le plan, les différentes, comment dire, les différents vecteurs qui pouvaient expliquer l'existence de ces droits de douane. Mais ça arrive pas souvent, mais l'administration américaine a quand même reculé sur ce point-là. Ils ont vu qu'ils en avaient fait un petit peu trop, et le principal facteur déclencheur, je pense, c'était l'augmentation des taux sur la dette américaine.
Oui, c'est un point qu'il faut soulever, c'est
Ouais.
que les États-Unis, donc depuis 45, ont dans le domaine financier ce qu'on appelle le placement sans risque, le 10 ans, puisque il n'y a pas de risque de contrepartie en principe, c'est-à-dire que
En principe, ouais.
en principe il n'y a pas de risque de contrepartie, ce sera toujours remboursé, la trésorerie américaine, etc. Bon. Et donc comme c'est le placement sans risque officiel, dans la quasi-totalité des portefeuilles, quand les gens craignaient qu'une crise arrive,
Ouais.
ils mettaient une partie obligation américaine. Et ce placement avait une particularité intéressante, c'est qu'il était antifragile. C'est-à-dire que quand les marchés s'agitaient et quand son prix elle-même, lui-même s'agitait, le prix de l'obligation américaine, l'obligation américaine montait.
Ouais.
Alors que d'habitude,
Ce
d'un
qui veut dire
placement normal,
quand l'obligation monte, ça veut dire que son taux baisse.
son taux baisse. Et donc, la quasi-totalité des autres placements, quand leur prix s'agite, quand la volatilité du marché augmente, le cours baisse. Et
Oui.
là, l'obligation, c'est le contraire. Donc, il n'y a que très peu de placements antifragiles dans les marchés financiers. Vous avez l'or, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun risque de contrepartie dessus. Vous aviez l'obligation américaine à 10 ans. Et aussi curieux que ça paraisse, avec les travaux qu'on a fait avec Didier, là, on a découvert que le sucre et le blé aussi étaient antifragiles, comme matière première. Mais on ne sait pas savoir pourquoi. Mais enfin, statistiquement, ils sont antifragiles aussi.
D'accord.
Donc c'est rigolo, j'imagine que les gens se mettent à avoir besoin de douceur et à te bouffer des pâtes, mais
Peut-être.
quand ça va mal, je sais pas. Bon, ben, bref. Et donc, c'était une des grandes raisons de détenir des obligations américaines, c'est qu'en cas de krach, par exemple en 87, quand j'avais de l'argent, le marché avait baissé de 27% en une journée. Mais si vous aviez des obligations à 10 ans de l'autre côté de votre portefeuille, c'est monté de 15%, donc vous aviez pris que 10% de baisse alors que tout le monde en prenait 27. Comment? Très bien. Il y a l'autre qui commence à ronfler là. Et ben là, il s'est passé un phénomène extraordinaire, c'est dans les marchés des actions commençaient à baisser. Au début, l'obligation américaine a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire qu'elle est montée, les taux ont baissé, et puis d'un seul coup, je crois que c'est le 9 avril ou n'importe quoi, je crois que c'est le 9 avril,
Oui.
d'un seul coup, les taux se sont retournés et ont commencé à monter.
Ouais.
C'est-à-dire que les marchés se sont rendus compte à ce moment-là que le marché obligataire américain n'était plus
Voilà.
antifragile. Ça voulait dire qu'il y avait un risque de contrepartie qui apparaissait dessus.
Ouais. Et il s'est passé du coup un truc qui d'habitude ne se passe pas,
C'était
c'est
jamais
que
passé.
des gens vendent sur le marché action, mais ils vendent aussi sur le marché
Nous l'étions
obligation.
en même temps, les
Alors
deux.
que d'habitude, l'un compense un peu l'autre.
L'autre corrigé en général, il y a une espèce de vase communicant. Quand il y en
Voilà.
avait un qui baissait trop fort, pof, l'autre montait.
Ouais.
Et alors, ben, ça a été un phénomène assez. Et 2 heures après, le président américain disait non, non, c'était que des paroles verbales, ça va s'arranger et tout.
Ouais. C'est ça, suspension de 90 jours, sauf en ce qui concerne
La
la
Chine,
Chine.
voilà.
Et derrière, depuis, il y a eu aussi quelques rebondissements par
Autrement,
rapport à la
la
Chine.
Chine, on tape plus sur les trucs produits électroniques, on tape
Voilà,
plus sur Apple.
c'est ça. C'était donc le 9 avril, ils ont annoncé l'augmentation des droits de douane sur les produits chinois, mais il y a eu du coup la suspension sur le reste. Ensuite, le 10 avril, la Chine inclut 12 entreprises américaines sur sa liste de contrôle des exportations, limitant la vente de produits à double usage civil et militaire. Le 13 avril, Trump annonce une exemption des droits de douane pour les produits électroniques, notamment les smartphones et ordinateurs, afin de réduire l'impact sur les consommateurs américains. Et le 14 avril, donc le lendemain, la Chine annonce l'arrêt de l'exportation de certains minéraux aimants de terres rares vers les US, donc nécessaires à l'industrie notamment automobile, aux semi-conducteurs, à l'aérospatiale et aussi à l'industrie militaire.
Ben voilà. Donc, il s'est passé, probablement le 9 avril, une espèce de changement extraordinaire, c'est que d'un seul coup, les obligations américaines ne sont plus antifragiles. C'est-à-dire que les marchés pensent, dans leur grande sagesse, qu'un risque de contrepartie était en train d'apparaître sur les obligations américaines.
Ouais.
Vous imaginez pas l'importance de ce phénomène. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est exactement pourquoi les taux sont retournés. Est-ce qu'il y a eu des malins, des gros malins, comme des Chinois, par exemple, qui ouais. auraient vendu à ce moment-là?
Il paraît que les Japonais sont pas mal dans le coup.
Les Japonais en ont vendu pas mal. Est-ce qu'il y aurait une petite attaque concertée des certains nombres de puissances asiatiques pour dire aux Américains, écoutez, vous ouais. commencez à nous brouter, quoi?
Ouais, il faut rappeler que les Chinois détiennent quand même 750 milliards, je crois, quelque chose comme ça, 750 milliards de dollars d'obligations américaines.
Oh, ils en avaient pas loin de 1000 ou 2000 il y a quelques temps.
Ouais.
Mais ils les ont peut-être mis ailleurs. Ça, c'est dans les réserves de change officielles, celles qu'on donne à la BRI. Vous savez, vous devez vous donner, par exemple, les Chinois annoncent leur achat d'or à la BRI, mais tout le monde sait que c'est même pas 10% de ce qu'ils ont acheté dans la vérité, quoi.
Ouais.
Donc, il y a les réserves officielles et les réserves non officielles. Vous savez, c'était autrefois dans les banques suisses que je connaissais un peu, et autrefois, il y a longtemps. Il y avait les réserves, le capital,
ouais.
les réserves pour le capital, celles qu'on avait mises de côté, etc. Et les réserves non officielles qu'on avait mises, mais qu'on n'en parlait pas parce que on espérait ne pas en avoir besoin.
Donc, ouais.
si vous voulez, parfois, leur laisser planer un doute sur l'étendue de vos réserves, c'est pas une mauvaise chose. Ça vous permet d'agir plus facilement. Bon. Donc, il s'est passé ce phénomène. Ça a des implications financières absolument gigantesques. Ça veut dire que les États-Unis ne peuvent plus menacer le monde de je ne sais quoi, parce que si sur cette menace, leur marché obligataire se met à se casser la figure, ils sont faits comme des rats.
Ouais.
C'est-à-dire, pour parler en termes clairs, hein, la contrainte du commerce extérieur est en train de revenir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont plus en train de dire, moi je fais ce que je veux, si j'ai un déficit trop important, je vous fais un chèque, vous le mettez ouais. en réserve, c'est fini. Et ils n'ont plus d'outils anti-crise. Si ce n'est l'or, mais en l'or, ils en ont que...
Ils en ont moins qu'avant.
Ils en ont peut-être moins qu'avant, et on ne sait même pas s'il n'a pas déjà été ouais. utilisé à droite et à gauche.
Oui, c'est ça, parce que...
Il n'y a pas eu
d'audit de Farnox depuis 1974, je crois.
1974, donc et encore, ça avait été, on avait promené quelques journalistes, on disait, regardez l'or, il est là, quoi. C'était ça, l'audit. Donc, nous venons de rentrer dans un monde où le bluff des États-Unis a quelque part été appelé. Le bluff des États-Unis, c'était de dire, je veux me replier sur moi, mais je reste la puissance dominante.
Ouais.
Maintenant,
vous avez besoin de moi, absolument, pour vos exportations et tout.
Vous avez besoin de moi, même pour
faire exactement ce que je veux.
Voilà. Et là, les gens disent, bah non, parce que...
Pas tant que ça, oui.
Pas tant que ça, parce que si vous cassez trop les pieds, on va vendre vos obligations.
Ouais.
Et là, vous vous retrouvez vraiment avec des taux à 7 ou à 10% ouais. et vous serez pas bien. Quoi. C'est... Et avec un dollar qui sera ratatiné, une inflation à 15. Donc, il s'est passé un phénomène qui doit amener à quelques réflexions à Washington en ce moment. Maintenant, quels sont nos moyens d'action, de pression sur ce que l'on considère? Il y a une contradiction essentielle dans les États-Unis aujourd'hui qui me gêne beaucoup, d'ailleurs, qui est apparue assez tard dans le discours de Trump, c'est, vous pouvez dire, je vais me replier sur moi. Vous pouvez dire, je suis la puissance dominante, l'impérium.
Ouais.
Le chef, mais vous pouvez pas dire les deux à la fois, quoi. Si vous repliez sur vous, vous pouvez pas dire aux autres, vous allez faire ce que je vous dis. Parce que ça, c'est quand vous étiez le chef de l'Empire que
oui.
vous disiez ça.
Oui.
Là, personne ne le dit, écoutez, vous êtes gentil, mais vous êtes un pays comme un autre, donc ouais. Vous avez pas gagné beaucoup de guerres depuis quelque temps, alors laissez-nous bien tranquilles, quoi.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il s'est passé un phénomène dont on sous-estime l'ampleur, parce que les journalistes comprennent pas grand-chose, mais c'est pas nouveau. Et qui va avoir des influences profondes. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et c'est voilà, c'était la première chose que je voulais dire, c'est que les États-Unis ne sont plus les maîtres de leur marché obligataire.
Ouais,
c'est fini.
Effectivement, ça a des conséquences assez importantes. Et ce qui m'intéresse, ce qui va conduire un petit peu le fil de cette émission, c'est la réaction de la Chine. Parce que la Chine a montré assez peu de cartes, mais je pense que si on pouvait chapitrer en quelque sorte ce qu'on appellerait une guerre commerciale. Je pense qu'elle a plutôt gagné ce chapitre. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc qui, à mon avis, n'avait pas été vraiment prévu par l'administration américaine. C'est le fait que la Chine se laisse pas du tout faire.
Pas du tout.
Et que quand Donald Trump annonce, je sais pas, 104% de tarifs sur les produits chinois, la Chine, elle, va annoncer 84% sur les produits américains. Enfin, à chaque fois, elle n'a pas du tout peur de renchérir. Elle se débine pas. Et je pense que les États-Unis sont beaucoup plus dépendants de la Chine que la Chine est dépendante des États-Unis.
Énormément, parce que aussi, ce que les gens... Les Américains réagissent comme s'ils avaient une industrie qui existe aux États-Unis qui serait sous pression par l'industrie chinoise. Donc en empêchant l'industrie chinoise de faire concurrence, ils permettraient à leur industrie de rebondir.
Oui.
Mais par exemple, vous prenez tous les produits de la maison comme les tubes, les baignoires, les valves, les douches, tout ce que vous avez, tous des poutres d'acier pour faire les maisons, etc. Tout ça aujourd'hui, c'est fait en Chine. Donc à partir du moment où vous mettez des impositions de tarifs de 124% sur ces trucs-là, toute la construction s'arrête aux États-Unis. La construction, c'est un énorme employeur. Vous avez tous ces gars qui, en général, n'ont pas fait le MIT ni Harvard. Hein. C'est des gars du bas. Ouais. Donc j'apprends qu'aux États-Unis, sur la côte ouest, à Portland, etc., il y a toute une série de projets immobiliers qui sont déjà arrêtés. Parce que les gens disent, moi, je sais pas si j'aurai les livraisons que j'ai demandé de mes tuyaux, de mes robinets, de mes chasses d'eau, de tout ça, si je les aurais ou pas, quoi.
Ouais.
Ils en ont plus aux États-Unis. Alors, ils peuvent essayer de se tourner vers le Japon, qui en ont. Mais c'est pas, ça fait pas 5 minutes. Et puis, ça sera pas les mêmes prix. Et puis, donc, ils ont un gros problème. C'est qu'une grosse partie de leur système économique aux États-Unis, industrie plus construction, etc., à ces instruments de base, enfin les pièces de détail, les pièces quoi, qui arrivent de Chine.
Ouais.
Et dans les voitures aussi, c'est pareil. Donc vous avez un léger problème, c'est-à-dire que je vais vous couper la tête, mais malheureusement, celui à qui vous dit je vais vous couper la tête, c'est lui qui fait le cimetière, qui va vous couper la tête, quoi. Donc je fais pas bien utile. Hein.
Je pense qu'il y a un peu une incompréhension en fait de ce qu'est l'avantage comparatif de la Chine, c'est-à-dire que il y a 20 ans, l'avantage comparatif de la Chine, c'était d'avoir une main d'œuvre déjà assez large et puis très bon marché. Donc on pouvait délocaliser tout un tas de trucs assez simples à produire.
Mais ça fait maintenant c'est au Vietnam que ça se passe. Voilà. C'est plus ce qu'ils font. Maintenant ils font des avions. Hein.
Voilà. Aujourd'hui.
Des trains à grande vitesse.
D'ailleurs ils viennent d'interrompre les livraisons de Boeing. Donc il y aura plus de livraison de Boeing en Chine apparemment. Et aujourd'hui, s'expliquait Tim Cook, le PDG donc de Apple dans une interview, il expliquait la raison principale pour laquelle aujourd'hui on fait fabriquer des téléphones en Chine, c'est pas tellement, même si ça compte aussi, mais c'est pas tellement parce que les salaires sont très bas. Si c'était juste une question de salaire bas, on pourrait les faire fabriquer ailleurs, encore moins cher. Mais c'est vraiment la concentration de la compétence.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on appelle la supply chain, tout
il y a les ports, les routes, les camions, les avions, tout ça c'est relié et ça marche très très bien.
Voilà, tous les domaines de compétence, toute la logistique, ce qui permet de simplifier totalement la production pour pas très cher, plutôt que de faire fabriquer un cinquième du téléphone aux quatre coins du monde, ce qui serait extrêmement pénible. Ils peuvent faire fabriquer 90% du téléphone à un endroit précis en Chine.
Voilà.
Et ça, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de le faire aux États-Unis. Il n'y a pas la compétence, il n'y a pas la centralisation de la compétence pour le faire.
Et puis, il n'y a pas les gens formés, parce que si vous voulez, c'est. Là, les Chinois sont. Par exemple, on le dit toujours, mais la Chine sort plus d'ingénieurs chaque année que tout le reste du monde mis ensemble. Quoi.
Ouais.
Donc, ils avaient 10 ou 15 ans, donc ils ont vraiment des tombereaux d'ingénieurs qui bossent partout.
Tout à fait.
Et c'est pas par hasard qu'ils ont des balances commerciales extraordinaires, parce que maintenant, ils font des produits qui, comme on l'a souvent dit ici d'ailleurs, qui sont meilleurs que les nôtres. Par exemple, la dernière voiture de BYD, là, c'est à mourir de rire, mais ils ont fait un truc qui, une voiture hybride, qui marche, qui a une autonomie, je crois, de 1300 km, ce qui est incroyable. Et alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai trouvé ça tellement malin, mais j'ai dû déjà le dire, mais je vais le redire. C'est que, vous avez un moteur hybride, c'est des batteries, puis vous avez un deuxième moteur qui est un moteur mécanique, classique.
Ouais.
Et donc, vous avez deux moteurs, c'est lourd. Bon, alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des batteries. Et puis, ils ont fait un petit moteur léger qui fait de l'essence. Et quand il n'y a plus de trucs dans la batterie, ouais. lui, il refait de l'électricité. Il fait ouais. pas, c'est pas un autre moteur qui fait tourner les roues. Il fait de l'électricité qui recharge la batterie. Ouais. Et la batterie qui fait tourner les roues. Ouais. Donc, ils ont un système qui est beaucoup plus économe que d'avoir le système. Ils ont qu'un système sur la voiture, quoi. Plus un petit moteur qui fait tourner la, qui recharge la batterie. Bon, mais c'est le coup des, ce que je dis toujours, c'est le coup des valises à roulettes, quoi. C'est, une fois que vous avez mis des roulettes sur les valises, vous voulez plus avoir autre chose. Mais c'est quand même une façon de penser en dehors de la boîte qui est très intelligente. C'est-à-dire, pas la peine de mettre deux moteurs. On va mettre un moteur et un truc pour recharger le moteur.
Bien sûr, tout à fait.
Donc, ils ont des tas de trucs comme ça. Et ça veut dire que leurs produits sont meilleurs que les nôtres qu'aujourd'hui, qu'on va pas chiquer, quoi.
Oui, c'est sûr. En qualité, ça augmente considérablement. C'est plus ce que c'était il y a 15 ans.
Non.
On peut être sûr que sur certains aspects de la technologie, ils vont commencer à être en avance sur
Par exemple, ils commencent à, vous savez que, on leur avait filé notre technologie pour faire les centrales nucléaires, comme celles qu'on fait là dans l'ouest de la France, et qui a un amal de chien à démarrer. Mais voilà. Eux, ils en ont déjà fait une ou deux, et ils vont commencer à les exporter.
Ouais.
Sans doute au tiers de prix de ce que fait EDF, quoi. Donc, faut jamais. D'abord, il y a deux choses que je comprends pas là-dedans. Pourquoi les États-Unis ont décidé que la Chine c'était l'ennemi? Un ennemi.
Parce qu'ils l'ont vraiment décidé.
Hein. Ah ben, c'est à peu près 7-8 ans, ils ont décidé une fois pour toutes que maintenant, d'abord, pourquoi les États-Unis ont-ils besoin d'un ennemi?
Je sais pas, j'avoue qu'ils seraient vraiment beaucoup plus tranquilles s'ils ne se donnaient pas la peine de trouver un ennemi.
Ben, depuis des temps immémoriaux, ils cherchent des ennemis pour aller leur casser la gueule. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas une idée très brillante d'aller casser la gueule de tout le monde dans le monde. Ça me paraît pas. Et puis, les Chinois, bon. D'après ce que j'en ai compris, bien sûr, mais enfin, ils aiment bien que leur zone, ils ont une influence très importante dans leur zone, vous savez, le fameux cercle de Valéry Pierry,
ouais.
Bon, c'est très bien. Mais, je sais pas s'ils ont l'intention d'envahir les États-Unis ou le Japon, ou, pense pas, hein.
Donc,
c'est vrai, cette espèce de militarisme belliciste des États-Unis, c'est curieux. À quel point ils ont besoin d'un ennemi.
Ouais. Et sur cette question des tarifs, je pense qu'ils sont partis d'un constat qui est peut-être vrai, mais qui est mal analysé. C'est ils se sont simplement dit quel est l'état de notre balance commerciale avec la Chine. Bah, ils exportent beaucoup plus que vers chez nous que nous on exporte vers chez eux. Donc eux, ils vont être beaucoup plus sensibles aux droits de douane. Sauf que le fait est que la Chine, ses exportations vers les États-Unis, c'est que 14% de ses exportations. Or, déjà, apparemment, là, sur le mois de mars, ses exportations sont en augmentation de 12%. Alors bon, parfois, les exportations, ça peut varier beaucoup d'un mois sur l'autre, mais enfin bon. Et on a vu que la Chine était en pleine négociation avec l'Union européenne aussi pour que l'UE lui ouvre son marché. Donc ça fait aussi un peu un remplacement du consommateur américain.
Et puis vous allez avoir un tel boom dans la
Et
région.
Puis, voilà, absolument.
Il y a l'Inde qui boom, qui
absolument.
Va avoir
vous avez l'Inde, vous avez le Vietnam.
Ça libère des capacités pour les autres pays, c'est tout.
Absolument. Quoi. Et toutes les grosses entreprises chinoises, elles viennent tout juste de commencer à exporter dans cette zone-là.
Oui.
On est encore que au tout début. C'est pas comme si elles avaient déjà absolument conquis ce marché et qu'elles avaient besoin encore de
choses. Non, c'est le contraire. Les marchés chez nous, parce qu'elles avaient besoin de réserves de change, pour des raisons pour payer leur pétrole. Là. Mais maintenant qu'elles n'en ont plus besoin, elles vont s'occuper des marchés qui sont autour d'eux. C'est beaucoup plus facile.
C'est-à-dire que, je crois, par exemple, on vient de parler de BYD, le plus grand constructeur automobile au monde. Il me semble que 90% de son chiffre d'affaires, c'est juste en Chine. Le reste reste à conquérir totalement. Alors que,
par exemple, il y a quelque chose qui va savoir, Amazon, tout ce qui est autour de Valéry Pierry, cet énorme cercle autour de Hong Kong, là, de 3000 km de rayon. C'est très intéressant parce que ce que les gens savent assez peu, c'est que l'économie de cette zone, dans chaque pays, il y a une diaspora chinoise. Vous savez, et la diaspora chinoise contrôle à peu près les économies dans tous ces pays-là. C'est-à-dire au Vietnam, il y avait, mais il y en a moins. Mais en Malaisie, en Indonésie, c'est toujours les Chinois qui contrôlent tout. Donc, à partir du moment où la Chine, maison mère, va commencer à s'intéresser, ils vont s'appuyer sur les diasporas chinoises, et ils ont déjà tous les réseaux qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de monter des réseaux, ils les ont, ils sont tous là, ils ont depuis toujours. Donc ça va être une... C'est couper le gâteau avec un couteau, quoi. C'est facile.
Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, alors, il y a la question des terres rares. Je l'avais évoqué, la Chine a annoncé qu'ils allaient simplement arrêter d'exporter des terres rares vers les États-Unis. Autant dire, ça coupe totalement, enfin, ça tue l'industrie de la tech, tout simplement. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est là-dessus, la Chine n'est pas absolument monopolistique sur les mines, sur l'extraction. En revanche, elle est quasi monopolistique sur le raffinement de toutes ces terres. C'est-à-dire, c'est 85% du raffinement de ces terres rares, c'est fait en Chine. Et ça aussi, je me suis intéressé à la question, est-ce que les États-Unis pourraient éventuellement rapatrier ce raffinement? Et c'est très très compliqué parce que, alors, ils avaient des entreprises qui le faisaient dans les années 80, mais aujourd'hui, ce serait quasiment impossible. Déjà, parce qu'il y a tout simplement le coût, c'est-à-dire, ce serait infaisable sans subvention. Or, ils cherchent actuellement à réduire les déficits, donc ce serait un petit peu l'inverse. Ensuite, ce serait impossible aussi à cause de toutes les normes environnementales. Ça, il faudrait faire sauter tout ça. Et puis aussi, encore une fois, il y a la question de la compétence.
Ben, il faut trouver les
Il
ingénieurs, les
manque les
géologues,
ingénieurs.
tout ça, c'est pas facile.
Ouais.
Et c'est là où on se rend compte quand même qu'il y a eu une espèce de manque de vision. Que toutes les meilleurs semi-conducteurs du monde soient faits à 100 km dans une île, à 100 km de la Chine, que 85% des terres rares soient raffinées en Chine, si on pensait que la Chine allait être un danger dans les 10 ou 15 ans qui viennent, c'était peut-être pas très rusé, j'en sais rien.
Oui, c'est ça. Si la Chine allait être un danger, enfin, je veux dire, quand même, on pouvait le voir venir.
C'est pas comme si on l'avait pas vu venir.
Moi, ça fait 15 ans que j'apprenais à l'école que la Chine allait devenir la première économie du monde. Bon, voilà, c'était connu de tout le monde. Il n'y
De
avait
tout
pas
le monde.
besoin de faire
Et
une
moi,
énorme étude de la
ça
CIA.
me rappelle, je sais pas si l'histoire est vraie, mais vous savez, la ligne Maginot en France, hein,
Ouais.
qu'on avait fait pour empêcher les Allemands d'arriver, là, qui a été un grand succès, comme chacun sait. Eh bien, imaginez-vous que son électricité venait d'une usine électrique qui était à Strasbourg. Donc, aussi bien,
C'est malin ça.
c'est malin ça. Ils auraient fait, poum, et à ce moment-là, ben, il n'y avait plus d'électricité dans l'île Maginot, il n'y avait plus rien de marché. Mais ça me rappelle un peu ce truc-là, si vous voulez.
Ouais.
Vous faites des grandes déclarations qu'on va se payer la Chine, et tous vos autonomes conducteurs, les trucs qui sont nécessaires à l'armement, tout ça, c'est fait en Chine.
Ouais.
Il me semble qu'une petite contradiction logique. Je ne sais pas qui sont les experts à long terme aux États-Unis, mais je ne leur confierais pas mon portefeuille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, non, non, pas vous, vous êtes gentil, mais. Si c'est pour acheter les trucs qui ont marché la dernière fois, ça me paraît pas.
Ouais, effectivement. Et bah, d'ailleurs, même en parlant de portefeuille, Scott Bessent, etc., ils aimeraient bien carrément pouvoir couper, en soi, ils le peuvent, hein, légalement, ils voudraient couper l'accès aux actions ADR. Chinoise sur le stock exchange de New York. En fait, ils veulent vraiment mener une guerre commerciale et financière à la Chine. Mais
Et s'ils le font et que les autres vendent leurs 1 000 milliards ou 2 000 milliards
ouais,
d'obligations américaines, ils vont pas avoir les fesses propres, hein.
ouais,
Parce qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt sont à 10 ans.
ouais, oui, ils sont à
Encore.
10, ouais.
Donc, si vous voulez, c'est bien, ça revient à la même chose. Si vous voulez vous payer la Chine, vous faites pas financer votre déficit budgétaire par la Chine pendant 10 ans, quoi. Ou bien alors vous dites, je vous rembourse pas vos trucs, mais à ce moment-là, c'est
Ouais,
embêtant.
oui.
Donc, si vous voulez. Ça me fait pas, c'est comme si, je sais pas, ça me paraît cette façon de financer, de se faire financer des déficits budgétaires par celui qu'on considère comme son ennemi, et donc d'aller dans la dépendance financière de cette personne, ça me paraît bizarre, quoi.
Ouais.
C'est pas ça, j'ai beaucoup de mal à saisir. Il y a quand même une contradiction essentielle, si vous voulez, c'est que vous pouvez pas interdire à un gars, par exemple à tous les épargnants américains, d'investir dans les sociétés industrielles chinoises qui gagnent très bien leur vie parce que ben, ils en ont peut-être besoin pour se faire payer des retraites, ces gars-là,
Ouais.
quoi. Vous voulez dire, c'est donc
Et puis
si la Chine
c'est
c'est
pas
le pays de la
dit.
liberté, si les États-Unis c'est le pays de la liberté, ben
Ouais.
qu'est-ce qu'ils ont à mettre des contraintes partout?
Ouais, et puis alors ce marché là des comment dire, des actions ADR, donc les actions chinoises cotées à New York, ça représente à peu près 1,1, enfin 1100 milliards de dollars.
Oui.
Bon, déjà d'une part, c'est pas dit que ces 1100 milliards de dollars vont aller directement sur des actions américaines. Voilà. Au contraire, c'est même un peu un signal, je trouve pas très bon pour un investisseur.
C'est du contrôle. C'est du contrôle d'échange. C'est du contrôle d'échange. C'est vous empêcher les Américains d'aller investir facilement dans un autre appareil industriel que le leur. Quoi. Ouais. C'est du contrôle d'échange. Ce n'est rien d'autre que ça.
Ouais. Et alors, j'avais trouvé, je voulais un petit peu essayer de résoudre cette question. Est-ce que les États-Unis peuvent mettre la Chine à genoux sur le plan financier? Et j'ai trouvé une interview, un papier de quelqu'un qui s'appelle Arthur Krober. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne?
Arthur Krober, vous rigolez, c'est le responsable chez Gavcal de toute la recherche sur la Chine.
Voilà.
C'est lui le patron, donc c'est lui, il a vécu je sais pas combien d'années à Pékin.
Donc il connaît un petit peu.
Quand le ministre des Finances américain était venu il y a quelques années en Chine, à la place d'aller, qu'on lui explique ce qui se passait, à la place d'aller à l'ambassade américaine, il était venu chez nous pour qu'on lui explique. Donc Herr Krober était, voilà. Donc oui, c'est un très bon spécialiste de la Chine, mais on en a 4 ou 5, hein.
Ouais. Et donc il a fait un petit papier pour le Financial Times sur lequel j'ai pu mettre la main, et il explique que les États-Unis ne peuvent pas mener cette guerre. C'est, en fait, c'est quasiment comme si la Chine avait déjà gagné, parce que si ces tarifs sont vraiment appliqués, la Chine y survivra.
Oui.
Les États-Unis, il y a tout un pan de l'industrie américaine qui va pas y survivre, tout simplement. Et s'ils ne sont pas appliqués, la Chine est contente aussi, parce que de toute façon, elle sait tout produire à très bas coût. Donc, en fait, dans tous les cas,
que Sun Tzu, qui était le premier qui a écrit un grand truc sur la stratégie militaire, hein,
ouais.
Il disait la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de ne pas avoir à la faire en écrabouillant l'autre avant que la guerre ait commencé.
Ouais.
Ben, là, ils ont attendu, ils sont attendus. Maintenant, comme vous le dites très bien, s'ils cessent de livrer des produits industriels aux États-Unis, ben, ce qui reste de l'industrie américaine va s'arrêter.
Ouais.
Il faut être fou.
C'est suicidaire.
C'est vraiment complètement débile, quoi. Je suis inquiet, moi, parce que je me dis, bon... Monsieur Trump était entouré de gens très bien, il y en avait tout un tas, mais alors les deux qui le conseillent sur le commerce extérieur, c'est Navarro et Lutnick, un nom comme ça.
Ouais.
C'est deux crétins profonds, quoi.
Ouais, c'est Musk a dit que il y en avait un des deux qui était un gros débile, ouais, effectivement.
Mais le Navarro. Ouais. Hein. Donc on a une situation embêtante où les États-Unis continuent à surestimer leurs forces et à sous-estimer la force de l'ennemi.
Ouais.
Enfin, c'est même pas un ennemi d'ailleurs, de l'adversaire.
Ouais. Mais c'est vraiment dingue, parce que, enfin, je veux dire, on peut éventuellement sous-estimer l'autre en disant je suis le meilleur, etc. Enfin, là, aujourd'hui et pour les prochaines années à venir, c'est absolument un partenaire commercial incontournable. C'est incontournable. C'est-à-dire que
si vous voulez faire une maison aux États-Unis, il faut avoir des tuyaux, il faut avoir des salles de bain, il faut avoir tout ça, et ils en font plus.
Ouais. C'est-à-dire que soit vous n'en avez plus besoin, vous décidez que vous n'en avez plus besoin, bon, c'est un peu compliqué. Soit vous le produisez localement, ça se fait pas en un claquement de doigts, et en plus de ça, ça coûte plus cher. Soit vous remplacez simplement le pays exportateur, c'est-à-dire que, je sais pas, un tuyau qui est fabriqué en Chine, bah, vous allez dire maintenant on va prendre les tuyaux vietnamiens, j'en sais rien.
Ou japonais.
Mais ça aussi, ça se fait pas en un claquement de doigts, parce que, notamment sur tout ce qui va être en lien avec la technologie et tout, la Chine, c'est juste incontournable. Ça prendrait 10 ou 15 ans de faire un réapprovisionnement.
Ils ont mis 10 ou 15 ans à faire des investissements d'infrastructures incroyables, à bâtir des barrages qui leur donnent de l'électricité, à bâtir des centrales nucléaires, Donc, ils ont mis tout ça le long de corridors industriels avec des trains à grande vitesse qui amènent ça à toute allure dans les ports, qui sont complètement automatisés. Ça part sur les bateaux, dans des containers, et ça va jamais... Et puis, donc, si vous voulez, ça fait 15 ans que les Chinois bossent sur le coup,
ouais.
Et ils fournissent pas... Ils fournissent que 14% de leurs exportations... 14% de l'exportation, ça va vers les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a 86% qui va ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient qu'un client.
Ouais.
Donc, et vous dites, ah ben non, Non, je vais remplacer tout ça en 2 ans. Non, mais vous rigolez ou quoi?
Et puis, ce qui se passerait, je veux dire, à court terme, si vraiment les tarifs sont appliqués, c'est que de toute façon, les 14% d'exportation vers les États-Unis, ça va juste passer maintenant par des intermédiaires.
Ça va passer au Vietnam, on va mettre Made in Vietnam, et puis
exactement,
voilà.
Exactement, c'est exactement ce qui va se passer. Donc,
ça prendra un peu de temps parce qu'il faut, je sais pas, c'était un des trucs qui doivent être développés, mais c'est les liaisons ferroviaires, justement, entre la Chine et le Vietnam et tout ça.
Ouais.
Là, pour l'instant, ça n'a pas été trop développé parce qu'ils étaient très occupés à développer la Chine. Mais maintenant, dans les années qui viennent, ça va le faire. Mais c'est un peu... Ce qui me fait un peu de peine, c'est que jusqu'à cette histoire des tarifs, Trump n'avait pas fait d'erreur. C'était bien, il s'était payé tous les gens qu'il fallait se payer aux États-Unis, puis ça allait continuer. Et puis là, d'un seul coup, il vient de se décrédibiliser de façon extraordinaire avec cette histoire des tarifs.
Ouais.
Et je trouve ça un peu dommage, quoi.
Oui, c'est une surenchère qui est effectivement pas nécessaire. Je sais pas si Trump pense vraiment que la Chine est un ennemi, parce qu'en plus de ça, lui-même a pas tant parlé de la Chine que ça pendant sa campagne. Il a pas, on sait que c'est pas un grand fan de la Chine, que voilà. Mais on va dire que pendant son premier mandat, il prenait la Chine comme une sorte d'adversaire commercial. D'ailleurs, il y avait déjà eu une sorte de.
Mais il avait succès chez lui.
Voilà. Mais on va dire qu'il y avait comme une sorte de respect mutuel en tant qu'adversaire, voilà. Et là, on a l'impression que vraiment, il y en a certains dans cette administration qui veulent vraiment se payer la Chine et qui veulent mettre la Chine à genoux pour
c'est
une raison.
C'est les héritiers des...
Les faucons.
Des qu'on appelait
les néocons.
Les néocons, c'est ça, qui étaient des vrais cons d'ailleurs.
Oui.
Dans l'ensemble. Mais ils ont essayé de se payer la Russie avec le bitcoin vu. Et maintenant, ils essayent avec la Chine, mais vous dites, mais ce qui va dire que cette espèce de triangle du futur dont j'ai souvent parlé, là, Moscou, Pékin et l'Inde, l'Inde se trouve dans une position merveilleuse parce qu'elle peut jouer. Ni Moscou, ni Pékin ne vont faire le moindre geste pour aider les États-Unis.
Ouais.
Donc l'Inde peut dire, écoutez, aux États-Unis, si vous me foutez bien la paix, de temps en temps, je pourrais tomber de votre côté lorsqu'il y aura une petite dispute. Mais sinon, ça veut dire que, c'est extraordinaire, mais les États-Unis sont en train de s'exclure de l'Asie.
Ouais.
C'est incroyable.
Ouais.
Puis arriver à ce résultat, il faut être vraiment...
Oui, c'est assez curieux, effectivement.
C'est bizarre, hein.
Ouais,
je veux bien qu'ils reviennent comme ça. En une espèce de forteresse américaine, mais ça pouvait se faire avec l'aide de l'Asie, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous nous aidez à nous réindustrialiser. Les dollars que vous avez, vous les mettez dans les usines à la place d'acheter des obligations. Il y avait des tas de choses à négocier. Parce que là, pas, on leur rentre dedans.
Ou du moins, effectivement, c'est possible d'avoir une vision long terme stratégique en disant, on va essayer de se couper de la Chine sur les 15 prochaines années. Mais là, le plan qui est mis en place actuellement m'a l'air beaucoup trop brutal. Et c'est, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est vraiment pas nécessaire.
Et puis en plus, dire que c'est essayer de faire perdre la face à la Chine. Et alors, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, c'est dire à un Chinois, même si c'est une ordure, que c'est une ordure. Quoi.
Ouais.
C'est,
en tout cas, pour l'instant,
c'est pas bien considéré.
Ouais.
Hein.
En tout cas,
je vais vous donner un exemple idiot, mais complètement idiot, vous savez. Ils ont mis les tarifs à 24, 44, 104, et puis c'est quoi.
Oui.
Et chaque fois, il y avait 4.
Oui.
Eh bien, 4, en Chine, c'est le chiffre maudit parce que ça veut dire la mort.
Ah ouais.
Donc, il mettait pas 102, il mettait 104.
Oui, c'est 104, 154.
Voilà, c'était parce que 4, ça veut dire la mort. Donc, c'est vraiment...
C'est une provocation.
C'est une provocation. Ouais. Mais quel besoin ont-ils de faire ça?
Ouais. Je suis d'accord, c'est assez curieux. Et alors cependant, il y a quelques remarques parfois qui sont faites en ce moment sur le fait que la demande domestique en Chine était pas forcément ce qu'on pensait qu'elle allait être, c'est-à-dire que c'était peut-être surestimé par le pouvoir chinois. Alors je cite un bout de l'article de Kroeber. Donc la Chine peut perdre la demande américaine, mais celle-ci peut être compensée par une demande domestique, même si celle-ci a été anormalement faible en raison d'une politique monétaire trop restrictive et d'une obsession pour l'injection de ressources étatiques dans la fabrication. Xi Jinping a fait volte-face et est désormais résolument engagé à stimuler la demande intérieure. Par ailleurs, la Chine peut très bien se passer des importations en provenance des États-Unis. 5 ans de contrôle à l'exportation lui ont permis de devenir très compétent impacts, pardon, dans la fabrication sans recourir à la technologie américaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça se fait que cette demande, elle est insuffisante?
Il y a deux choses, si vous voulez. Et la première, c'est que je ne suis pas certain qu'on mesure la consommation en Chine en utilisant le bon indice des prix. Je veux dire par là, mettons que vous produisiez 100, ou 102, allez, et que l'inflation soit à 2.
Ouais.
Ça veut dire que, ben, en volume, ça fait 100. D'accord. 102, bon, très bien. Mais si à la place d'être à 2, l'inflation est à moins 2, et que les ventes sont à 102, ça veut dire qu'en volume, vous êtes à 104.
Ouais.
Et je pense qu'on sous-estime la baisse des prix en Chine, et que donc on sous-estime la croissance en volume.
Parce qu'on a le mauvais instrument de mesure.
Parce qu'on ne mesure pas la baisse des prix effectifs qui a lieu.
Ouais.
Ce qu'on ne sait pas, c'est que, parce que par exemple, en l'Angleterre, de 1800, quand les statistiques ont commencé à être publiées, 10 par là, vers la fin des guerres napoléoniennes jusqu'à 1880, sa production industrielle a été multipliée par 7. D'accord ? C'est en volume.
Ouais.
Et les prix ont baissé de 50%. C'est-à-dire que le PIB nominal, il n'est pas, bon, il n'a pas été multiplié par 7, il a été multiplié par 3,5. Quoi.
Ouais.
Donc il peut y avoir cet effet que j'appelle un effet de deflationary boom. Qui est, ça veut dire que si l'indice des prix n'est pas le bon, la croissance en volume est très supérieure à ce qu'on dit, et l'enrichissement des gens est très supérieur. S'ils achètent des produits de meilleur en meilleur qui sont de moins en moins chers, peut-être on mesure mal. Il y a peut-être cet effet. Et le deuxième, c'est que il faut dire que Xi, avec en mettant tout le monde en tôle pendant 2 ans à cause du, et puis en tapant sur les Alibaba, sur les grands, il avait un peu coupé le moral des entrepreneurs. Quoi.
Ouais.
Donc, vous regardez, si on en a souvent parlé ici, il y a des dépôts absolument monstrueux qui ont lieu en Hong Kong.
Ouais, tout à fait.
2000 milliards de dollars sur la Hong Kong dont on ne sait pas quoi foutre. Donc vous avez de la liquidité, on sait qu'elle est là, mais pour l'instant elle n'est pas embauchée, elle n'est pas engagée.
Ouais.
Mais le jour où il faudra l'engager, elle sera engagée tout de suite. Quoi. C'est pas quand c'est dans les pots bancaires, vous n'avez pas demandé un crédit à la banque si vous avez 2000 milliards de dollars qui dorment dans votre chaussette. Là. C'est donc je suis pas très inquiet. Ce qui est intéressant, je l'ai vu depuis 7-8 ans, dès que je commence à parler de la Chine, ou je commence à me renseigner un peu quand même. Chaque fois que vous dites du bien de la Chine, d'abord pour le marché obligataire, maintenant pour le marché des actions, ce qui a été notre cas, tout le monde vous tombe dessus. Mais comment? Mais vous n'avez pas pris en compte le Taïwan, etc. Bon, bon, je le mets parfaitement. Et quand vous dites aux États-Unis, vous savez, ils ne vont peut-être pas réussir à dominer l'intelligence artificielle, tout le monde vous dit, mais vous vous trompez complètement, ils ont toujours gagné et tout. Donc il y a une espèce de biais favorable au marché américain et de biais défavorable au marché chinois partout.
Bien sûr.
Ça me donne envie d'acheter le marché chinois, mais enfin.
Ouais, ouais. Alors après, évidemment, il faut interroger ses propres biais et ne pas tomber derrière dans un biais pro-chinois. Mais effectivement, il y a un fort biais pro-États-Unis dans la presse, dans les médias de manière générale, qui est assez évident.
Ben, il faut savoir. Qui possède la presse, hein, qui a payé la presse depuis 20 ans pour dire du mal de la Chine et du bien des États-Unis? Ben c'est USAID, dont on a dit tout le mal qu'on en pensait. C'était tous ces journaux qui étaient, tous ces journalistes qui étaient payés par les services de propagande des États-Unis. Ben voilà. Tandis que moi, je tiens à dire que j'ai pas été acheté et que j'attends toujours avec impatience les propositions de la Chine qui n'arrivent pas.
Ouais. Oui, alors
personne ne va m'acheter.
Alors on attend l'échec du coup des États-Unis, on attend l'échec un peu moins, mais
on les a attendus longtemps, mais ils sont pas venus.
On aurait pu les attendre en novembre-décembre quand même. Éventuellement, on attendait des chèques d'Israël, on attendait des chèques de la Russie, évidemment. Et ça arrive pas. Hein.
Mais non, les Colissimo, ils continuent à vivre misérablement.
Ouais.
Enfin, petitement, mais honnêtement. Mais vous savez, l'honnêteté, c'est peut-être très surestimé. Hein, c'est...
Ouais. Et alors après, je me posais aussi une question un petit peu plus, générale, c'est-à-dire que est-ce que la Chine va pas essayer, je vais pas dire de changer de modèle, c'est pas ça, mais est-ce que la Chine n'essaye pas d'attirer des petites têtes occidentales pas trop mal faite sur son territoire. C'est-à-dire que il y a par exemple un streamer qui est assez connu. Alors moi, à titre personnel, je regarde pas, mais si vous traînez sur internet de temps en temps, je suis sûr que vous l'avez déjà croisé, enfin sur TikTok ou sur Instagram ou je sais pas quoi, un streamer qui s'appelle Speed, Aisho Speed, et qui dernièrement était faisait un petit tour en Chine. Et alors partout où il passait, il y avait des foules de jeunes chinois qui regardent TikTok aussi ou YouTube ou je sais pas quoi, et qui du coup savent qui il est. Voilà, c'est une véritable star, le gars. Et je me disais, quand même, ce petit tour, il est vachement bien fait. Il y a plein de gens partout qui sont là pour le recevoir. Alors je me dis, est-ce que c'est pas peut-être une tentative un peu de communication aux jeunes occidentaux pour dire, regardez quand même comment c'est la Chine, c'est assez stylé. D'autant plus que la Chine, je pense en termes d'image, a eu la vie un petit peu dure avec le Covid, déjà parce que le Covid venait de Chine, et puis parce que comment dire, les restrictions gouvernementales étaient quand même très très lourdes sur la population. Donc 2021, 2022, ça traînait un peu. En plus de ça, il y a eu la crise de l'immobilier aussi en 2021. Donc bref, c'était un peu lourd. Peut-être est-il temps de reparler un peu aux occidentaux pour dire, regardez, maintenant on n'a plus de problème. Et la Chine, c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est pas la Chine d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, les villes propre. Ultra modernes, ultra propres, ultra sécurisées, c'est chez nous.
C'est chez vous, et il y a beaucoup moins de pollution qu'il y a 10-15 ans, qui était insupportable. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc vous vous dites, vous allez à Hong Kong, vous pouvez manger par terre. Vous allez à Tokyo, c'est propre comme tout. Vous allez à Pékin, vous allez un peu partout à Shanghai, c'est nickel. Tout marche bien, tout marche. Vous vous dites, c'est terrible l'étatisme quand même, hein, parce que c'est pas comme dans de bonnes sociétés démocratiques que ça marcherait comme ça, mais c'est-à-dire que nos sociétés sont tombées malades d'une espèce de refus de considérer le bien commun, qui était au cœur de nos sociétés au départ, mais on le faisait par devoir. Et la Chine est restée quand même dans comment assurer le bien commun, c'est l'essentiel de Confucius. Ouais. Hein, donc, nous, c'était une partie, et on a mis en avant, dans le fond, tous les marginaux dans nos civilisations, qui, eux, n'étaient pas heureux dans les positions, je ne sais pas s'ils peuvent être heureux, les pauvres d'ailleurs. Et donc, on s'est focalisé sur comment intégrer ces gens complètement marginaux dans l'ensemble. Ouais. Ça n'a pas l'air de marcher terrible. Et donc, on a maintenant, nous, on a été gouvernés par et pour des minorités. Et les Chinois ont dit, ça ne vous fait rien, on va continuer à gouverner pour le bien commun. Et c'est un drôle de truc, mais moi, je suis assez partagé, mais voilà, c'est
c'est sûr, en fait, c'est très contre-intuitif, surtout pour nos esprits d'Européens, parce qu'on a appris que l'étatisme, c'était pas très bien, et que généralement, comment dire, plus le pouvoir politique était grand, plus la restriction de liberté était grande aussi.
Ce qui n'est pas exact, c'est encore une fois ce que je dis sur les sociétés confucéennes, c'est vous avez trois degrés, vous avez le domaine social, où la liberté peut s'exercer, votre famille, vos enfants, vous les élevez, etc. Vous avez le domaine économique, vous êtes libre, etc. Et vous avez le domaine politique. Et ce que disent les Chinois, ce que disait Deng Xiaoping, ce que disait Lee Kuan Yew en Singapour, on va vous permettre de vous développer autant que vous voulez dans le domaine social, puis le domaine économique, mais vous nous foutez bien la paix dans le domaine politique, parce que ça, c'est sérieux, c'est pas... Pour que le groupe survive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des méfaits du groupe. Avec quoi, je suis pas toujours d'accord, mais... Et donc, il est certain que je suis, aussi paradoxal que ça paraisse, beaucoup moins libre à Paris que je ne l'étais à Hong Kong.
Ouais.
Mais parce que je m'occupais jamais du domaine politique en Chine, ce n'était pas mes oignons, je suis pas citoyen. Ouais. Et donc, dans le domaine économique et dans le domaine social, ils me foutaient une paix, mais alors royale. Par exemple, on a ce bureau dont Arthur Krobert était le patron pendant des années à Pékin. Ouais. Ça doit faire 15 ans qu'on a ce bureau où il y avait 6 ou 7 personnes. On écrit sur la Chine, parfois pas des trucs pas très aimables d'ailleurs. Et on n'a jamais eu un coup de téléphone ni une visite de quelque officiel que ce soit chinois. On a une paix royale dans la mesure où on n'écrit pas en chinois.
Ouais.
Parce que tous ces gars-là, ils savent écrire en chinois, mais nous, on n'écrit pas en chinois. Hein. Donc, ce qui n'est pas toléré, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs Ma quand il avait attaqué le... Dans une conférence à Shanghai, il avait attaqué la politique monétaire de la Chine. Ma, c'était le patron d'Alibaba. Il a été cassé quelques cailloux dans le nord de la Chine, et puis il est revenu après, ayant compris exactement comment il devait se tenir. Mais... Donc c'est un paradoxe extraordinaire, c'est que vous êtes totalement libre dans la mesure où vous n'essayez pas d'intervenir dans le système politique.
Ouais, à l'inverse, y a un terme qui revient de plus en plus souvent, que j'aime beaucoup, qui, à mon avis, décrit assez bien notre situation chez nous, surtout en Europe occidentale, c'est l'anarcho-tyrannie.
Ben oui,
c'est-à-dire que, en fait, l'État est tout à fait capable d'être dur, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait anarchique dans le sens où l'État est absent, mais c'est anarchique dans le sens où on laisse le bazar s'installer, les marginaux, comme vous dites, ont de plus en plus de place, et en fait, on a peut-être plus à craindre pour ses libertés personnelles lorsque on dit du mal de certains dogmes d'État, comme, je sais pas, l'immigration, le vivre ensemble, ça on le voit notamment d'ailleurs au Royaume-Uni en ce moment. On a plus de problèmes quand on fait une blague, entre guillemets, un peu raciste sur Facebook, que lorsque vous dealez de la drogue.
C'est ce que j'ai dit... C'est ce que j'ai vu, par exemple, vous savez combien il y a eu de gens qui ont été en taule en Russie parce qu'ils avaient dit des choses désagréables sur Poutine, sur le régime, etc. Il y en a eu 400 depuis un an.
Quelques centaines.
Et en Angleterre, combien il y en a eu?
Je sais pas, mais là, il y a eu une sacrée inflation dernièrement.
30 000.
Ouais.
Donc, on m'explique que la société russe est tyrannique, mais en réalité, si je vous envoie un email en disant décidément, j'en ai ras-le-bol de tous ces, mettez n'importe quel nom derrière, qui serait à connotation raciste, ils peuvent aller choper votre email et dire vous êtes raciste et vous retrouvez en cabane.
Ouais.
Au point que maintenant en Angleterre, la Cour suprême, ce qui fait office de Cour suprême, a littéralement fait deux droits, un droit pour les hommes blancs et un droit pour les autres. Et les hommes blancs sont punis beaucoup plus sévèrement pour les mêmes crimes, quoi.
Ouais,
c'est-à-dire que si un Pakistanais dit que les blancs c'est des ordures, bon, il fait que dire la vérité, quoi. Et si un homme blanc dit que les Pakistanais sont des ordures, lui il part en taule pour... Donc on se dit c'est complètement fou d'arriver à créer un droit pour les hommes blancs et un droit pour les hommes blancs, mais on est devenu complètement cinglé, quoi.
Ouais.
La forme de la démocratie, la seule, c'est que l'égalité de tous devant la loi, quoi. Et qu'on regarde pas si le type est noir, blanc, bleu marine ou marron foncé, on s'en fout, quoi.
Et en plus de ça, le raisonnement qu'il y a derrière cette inégalité en droit donne précisément raison à ce qu'ils appellent les racistes, puisque finalement, ce que ça dit, c'est que les blancs seraient des individus peut-être plus adultes, plus responsables que les autres, plus libres de leurs actes, alors que les autres, finalement, ils seraient pas tout à fait responsables, donc il faudrait être plus sympa avec eux et les punir moins sévèrement, voire ne pas les punir du tout. C'est un peu
alors,
comme la distinction entre
majeurs. Vous ne connaissez pas ça, mais... Vous en avez pas encore, peut-être un jour aurez-vous des enfants, et vous appliquez cette théorie que les enfants, il faut pas les informer, les tenir, parce qu'ils sont pas capables de comprendre.
Ouais.
Vous aurez des enfants qui manqueront pas d'internet, hein, ça je peux vous dire. Vous aurez souvent à aller les voir au poste de police le soir en rentrant, quoi.
Ouais.
Donc si vous voulez, l'idée qu'il y a on peut faire des différences selon les races de la culpabilité dans un acte est tout simplement insupportable.
Ouais. Oui, et puis, enfin, je veux dire, ça pose juste l'inverse des bases d'une société fonctionnelle. Si on commence à dire, ah bah oui, alors on a fait un droit particulier pour eux parce que en fait, on a décidé que c'était pas normal de leur demander de bien se tenir. Ils vont venir par millions chaque année et si vous avez la gentillesse de bien vouloir la fermer par rapport à ça, ce serait sympa.
c'est moi qui vais payer.
Voilà, et c'est moi qui vais payer. A priori, ça
va
mal se
passer. Donc c'est pas du tout être raciste que de dire ça, c'est rappeler les fondements de notre société qui est l'égalité de beaucoup de tous devant la loi et la responsabilité individuelle. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous faites.
Mmh.
Et à ce moment-là, vous êtes jugé en fonction de cette responsabilité. Mais je peux pas être jugé différemment selon que je suis blanc ou noir. C'est une...
Ouais. Non, mais tout est fait un petit peu comme ça dans nos sociétés. C'est pareil, même, c'est le genre de petit exemple, mais avant que je déménage dernièrement, j'habitais dans le 10e arrondissement. Et dans le 10e arrondissement, il y a beaucoup de problèmes avec des SDF ou des migrants qui sont dehors, qui se bourrent la gueule, ou peut-être qui se droguent même. Et par conséquent, il y avait un arrêté pour demander au magasin de ne pas vendre d'alcool après 17h. Pour éviter que les SDF boivent après. Alors, j'ai envie de dire, ça, non seulement ça pénalise tout le monde, mais ça pénalise même encore plus l'honnête homme qui rentre du travail à 18h, 19h, voire 20h et qui a juste envie de se prendre une petite bouteille de pinard, alors que le SDF, lui, il a toute la journée jusqu'à 17h pour acheter absolument ce qu'il veut. Donc tout est un petit peu comme ça, c'est-à-dire on pénalise l'entièreté de la population pour une minorité qui
pour ne pas avoir à dire qu'il y en a quelques-uns qui font ben c'est toujours la loi de Pareto. Allez, 80% des crimes en France sont faits par 20% de la population à tout casser. Donc du coup, on met des lois restrictives sur 100% des gens, ouais, alors qu'on pourrait identifier les 20% et je sais pas, comme je dis toujours, les envoyer en Guyane quoi.
Ouais.
Alors que ça ferait beaucoup, mais
le système chinois ou Lee Kuan Yew, etc. Là, pour le coup, c'est juste aucune pitié. C'est si vous posez problème à la société, on vous enlève de la société.
Voilà.
Tout simplement. Voilà. Et à ce moment-là, bah, la société est très.
Et c'est ce que dit le gars du Salvador là, qui est en train de recevoir, ouais, Trump. Il y a quelqu'un qui lui a dit, vous avez privé de liberté, je sais plus combien.
Vous avez enfermé des milliers de personnes.
Il a dit oui, mais j'ai libéré tout le reste de la population.
Absolument. Absolument.
C'est une phrase très forte.
C'est une très grande, très bonne citation. Effectivement, il a dit ça juste hier, reçu à la Maison Blanche, et c'est fondamental. Et j'avais vu d'ailleurs un petit reportage de TF1 qui allait au Salvador. Et je dois dire que le reportage était plutôt bien fait.
Ma fille est en ce moment ou l'autre.
Voilà. Et effectivement, il faisait un petit tour dans les quartiers, enfin dans différents coins du Salvador, et il demandait aux gens comment était la vie avant. Il disait bah c'est simple, je pouvais pas rentrer chez moi quand je voulais, comme je voulais. Moi je livrais des pizzas, donc de temps en temps il y avait des types qui me prenaient et qui me volaient mes pizzas, machin. Et aujourd'hui je peux vivre librement quoi. Il y a plus aucun problème.
Et la question c'est que c'est la crapule qui doit être en prison ou c'est la vieille dame qui reste en prison parce qu'elle peut plus sortir de chez elle.
Ouais.
Nos sociétés choisissent, ouais, que la vieille dame reste en prison. C'est quand même étonnant.
Ouais. Ouais. Une sorte de prison permanente, pas gérée par l'État, mais laissée par l'État, quoi, en quelque sorte.
Donc tout ce qu'on voit, c'est et ça revient à la Chine. C'est on a une espèce de société chinoise qui grandit selon des principes qu'elle a toujours eu, ceux de la société confucéenne, qui sont quand même un respect très fort de l'ordre établi, c'est-à-dire que les enfants doivent respecter le père doit respecter le maire du village, le maire du village il doit respecter le patron de la province, et le patron de la province il doit faire bien attention à ce qui se passe à Pékin. Et il n'est pas question de, si vous voulez changer l'ordre, à ce moment-là, vous essayez de pénétrer dans le Parti communiste, qui fait, je ne sais plus combien, 200 millions de personnes, c'est monstrueux. Et à ce moment-là, vous rentrez à l'intérieur du parti et vous militez à l'intérieur du parti pour faire changer des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas anarchique comme façon de procéder. Donc c'est une espèce d'organisation de la société qui a ses défauts, parce que c'est très difficile d'être individualiste dans ces sociétés. Mmh.
Tout à fait. C'est pour ça, nous, en tant qu'occidentaux, c'est compréhensible aussi que ce genre de société nous, peut-être pas nous révulse, mais nous indispose un peu. C'est-à-dire, on comprend pas comment c'est possible, en fait.
Non, on comprend, mais c'est comme ça, quoi. Quand je vivais à Hong Kong, bah, il y a quelque chose qui, dans un bouquin de Sowell, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il y a des sondages qui ont été faits dans différents pays. Vous perdiez 12 portefeuilles au Portugal, en Chine, dans différents grands pays du monde comme ça.
Ouais.
Et vous voyez combien des portefeuilles étaient ramenés au poste de police le plus proche. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, à Hong Kong, je crois que c'était 11 sur 12 sont arrivés. et au Portugal, c'était 1 sur 12 qui est arrivé. Ouais. Et ça avait été ramené par des Hollandais, d'ailleurs. Donc, et en Hollande, ils étaient 7 ou 8 à revenir. Ouais. Donc, il disait, c'est une forme extraordinaire d'organisation de la société, parce que ça montre que laisser les portes comme ça, ça montre là où les gens perçoivent, dans le fond, qu'ils font partie d'un tout et que ce tout doit être sain en quelque ouais. sorte. Et je me disais, mais c'est pas faux, c'est un bon test de l'endroit où quelque part vous pouvez mettre votre fric, quoi.
Ouais.
On va pas vous le voler à la première occasion.
Ouais,
quoi.
Effectivement.
Et j'avais trouvé ça amusant parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles aucun portefeuille ne revient, quoi.
Ouais.
Vous savez que c'est pas la peine peut-être de mettre trop d'investissement là-bas, quoi.
Ouais. Oui, non, c'est sûr. Bah, c'est, comment dire, la psyché de la population va aussi avoir une influence absolument gigantesque sur le droit, sur la tradition du droit. Or,
Ces sociétés-là, il y a en général assez peu de droits. Il n'y a pas beaucoup de règles.
Oui, alors c'est du
parce
droit.
Parce que les gens s'autorégulent.
Oui. Alors oui, c'est du droit plus coutumier,
voilà.
moins écrit dans la pierre. C'est moins côté code civil 1804. C'est plus un peu plus anglo-saxon comme.
C'est ça, ça vient du bas, c'est-à-dire que oui, moi je suis un homme honnête, je trouve un portefeuille, je le ramène quoi.
Mais d'ailleurs, c'est d'autant plus dans les systèmes coutumiers que justement le droit émerge de la masse.
Mais bien sûr.
Donc c'est la population, l'état d'esprit, la culture détermine l'état du droit qui n'a pas forcément été gravé dans la pierre.
Non. Il doit être graffé dans l'âme des gens, pas dans la pierre. C'est ça le problème. Donc voilà, c'est-à-dire ce qui m'inquiète dans la situation chinoise, c'est que j'ai aperçu dans la façon dont les États-Unis réagissent en ce moment une part d'irrationnel. C'est-à-dire c'est pas les Chinois qui m'inquiètent, c'est les États-Unis que je trouve irrationnel en ce moment. Et ça m'inquiète. Mmh. Mais c'est pas. Parce que j'aime.
Mais en plus de ça, irrationnel au point de se pénaliser eux-mêmes.
De ne pas se rendre compte qu'ils
se pénalisent
eux-mêmes.
C'est particulièrement inquiétant parce qu'à la limite, un adversaire commercial, comme vous l'avez dit, si vous avez vraiment une industrie américaine qui est en conflit avec une industrie chinoise, que l'industrie chinoise est trop compétitive, qu'on va essayer de faire en sorte de pénaliser l'industrie chinoise pour.
Essayer de faire monter l'autre, ça va.
À la limite, c'est une vraie guerre commerciale, on l'entend. Mais là, vous êtes littéralement dépendant de tout un tas de matières premières qui viennent d'un pays, de tout un tas de produits. Et là, vous vous mettez vous-même une balle dans le pied parce que eux ont pas besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux.
Non.
Donc, c'est vraiment difficilement compréhensible.
C'est bizarre, ouais. Mmh. Ben voilà.
Ouais. Ben, j'espère qu'ils vont revenir un petit peu à la raison. Ça leur ferait peut-être pas beaucoup de mal de faire peut-être un petit échange. Ils envoient peut-être Scott Bessent faire un petit tour à Shanghai, à Hong Kong pour se faire une idée. Peut-être un mois de stage par exemple. Et puis eux, ils envoient un émissaire chinois à New York, à Los Angeles et à Miami. Et puis chacun discute après. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de
se mettre sur la gueule?
Ouais.
Mais à partir du moment où vous décidez que l'autre... C'est pour ça que j'aime pas cette histoire d'ennemi. À partir du moment où vous décidez que l'autre est mauvais par essence, vous êtes mal barré, quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire, si vous respectez pas votre adversaire, si vous en faites un ennemi, on le voit très bien dans les débats politiques en France, il y a des gens de l'autre camp qui veulent même pas discuter avec vous, quoi.
Ouais.
Ils vous considèrent pas comme un égal, ils vous considèrent comme une énorme merde qu'il faut écrabouiller, quoi. À ce moment-là, la discussion, c'est... Est-ce que c'est de l'irrationnel ?
Ouais. Pour moi, il y a totalement de l'irrationnel. C'est simplement l'idée de se dire, c'est la deuxième plus grosse économie du monde. Elle risque...
C'est la première puissance industrielle.
Voilà, elle risque de devenir la première puissance économique du monde. Nous sommes la première puissance économique du monde. Il faut absolument l'empêcher de devenir la première puissance économique du monde par tout moyen. Et c'est peut-être par ces moyens-là qui vont permettre à la Chine d'y parvenir plus rapidement que prévu.
Plus rapidement possible. Et qu'ils vont se couper de l'Asie.
Ouais.
Voilà. C'est bizarre.
Ouais, c'est assez étrange.
Il y a quelque chose qui est apparu dans la politique de Trump depuis 15 jours, 3 semaines, qui me laisse un peu rêveur, parce que...
Il y a eu des propositions très intéressantes, et puis, voilà, il faut le dire aussi, lorsqu'on trouve que parfois...
Ah ben oui, il y a eu un dérapage qui s'est passé dans les 15 derniers jours, qui m'a laissé pantois, moi.
Ouais.
C'est... je le regrette, mais... Voilà.
Ouais, effectivement, c'est à partir principalement du dérapage avec la Chine, à partir du moment où il a annoncé l'arrêt de 90 jours sur tout le reste et qu'il a surenchéri avec la Chine, là il y a eu vraiment un pas dans l'irrationnel qui était assez inquiétant, effectivement. Donc bien sûr, bah, nous allons suivre cette situation, on espère que ça va se calmer.
Ça n'a pas beaucoup d'influence sur le portefeuille, parce que la bourse, elle continue à monter gentiment, il n'y a pas de problème. La seule chose qui m'a surpris dans ce portefeuille, si vous voulez, c'était la hausse de l'euro, parce que comme les Européens ont vendu massivement les États-Unis, ouais. ils ont fait rentrer le pognon ouais. en Europe, et du coup l'euro est monté de 10%, ouais. et vous calculez notre portefeuille en dollars, bon, il doit être à 106 ou 107, et en euros, il était 99 ou 100, et je me dis, tac, on a pris 7%, auquel je m'attendais pas du tout, le coût de l'euro qui est monté. Alors là, je dois dire, ça paraît logique maintenant, ouais. mais je l'ai pas vu arriver ce coup-là. Mais, ouais. mais en même temps, il y a aucune raison que l'euro monte contre le yuan. Mm-hmm. Mais aucune, alors vraiment, aucune, quoi. C'est de la folie. Plus on se révalue, moins on devient compétitif, quoi. C'est ouais. complètement idiot.
Oui, en plus, oui.
Donc c'est idiot, mais enfin, je comprends la réaction des Hollandais qui, pris de panique, vendent leurs actifs pour remettre ça dans leur monnaie d'origine, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sur le marché américain. Alors, il y a des hedge funds qui continuent à faire du trading, etc. Mais les fonds d'investissement, les trucs, toutes les caisses de retraite, etc., ils sortent du marché américain parce qu'ils se disent, moi, je sais pas ce qui va se passer. Donc, en attendant d'y voir clair.
Surtout qu'ils étaient très, très surexposés.
Ouais. Oui, en plus.
Ils étaient tous très surexposés, tout le monde avait trop aux États-Unis.
Ouais. Donc là, il y a un rééquilibrage qui est nécessaire.
Et pof, comme ils remettent ouais. ça en euros, dans le temps, ça aurait fait monter la Guilder ou le Deutsche Mark, mais là, ouais. ça fait monter l'euro, et nous, on se retrouve avec un portefeuille qui était fait. Ouais. Et hop, on voit l'euro monter, on se dit, mais attendez une seconde.
Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand même, il faut le dire, malgré la correction, on a été très très brièvement au territoire de bear market sur le S&P. Ouais. Malgré ça, ça reste quand même 65% de l'ETF World. Ouais. Ils sont un price-earning ratio quand même très au-dessus de leur moyenne historique.
Ouais,
enfin voilà, donc on n'est pas en plein crack, et il y en a plein qui se disent, il y a encore beaucoup de place pour
que
la baisse,
plus.
Pour que ça baisse. Donc pour l'instant, j'y vais pas, quoi.
Ouais, mais c'est tout à fait exact. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup.
Bah oui, merci à vous.
Ça fait
merci
toujours plaisir.
Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. J'espère que mon rhume n'aura pas été trop gênant.
J'espère que tu ne me l'as pas filé, oui.
Oui, aussi, tout à fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut Liberté et sur l'Université de l'Épargne aussi.
Merci beaucoup.
Merci.